Radio Cassine, Grand Témoin.
Ministre honoraire de l'Environnement et Tourisme, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France et compagnon de feu le président Laurent Désiré Kabila, Eddy Angoulouma Bengi est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Eddy Angoulou, soyez le bienvenu.
Merci bien, M. Alain. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Comment allez-vous?
Oh, je me porte bien, merci.
Le 10 octobre 1948, vous naissez à Linfou, dans la province du Bandundu. Vous êtes marié et père de 8 enfants. Quel est le souvenir heureux qui a marqué votre enfance?
C'est vraiment une turbulence de souvenirs, ce qui s'entrechoque chaque fois quand je pense à mon enfance. C'est un peu comme dans une jungle, une forêt vierge, où c'est plein de lianes qui ne savaient pas lesquelles utiliser pour nouer un nœud et qui vous tiennent. Mais je me souviens toujours d'avoir été un enfant de la brousse africaine, chassant les lézards et les rats, et à l'école, apprenant à écrire assis par terre avec de la braise. Ces souvenirs-là sont des souvenirs qui sont restés heureux, marchant 10 km par jour pour aller à l'école pour apprendre.
Votre passage à l'école, on en parle dans les minutes qui suivent, et le souvenir malheureux.
Alors, le souvenir malheureux en même temps heureux, c'est probablement d'abord j'ai très tôt perdu ma mère. Ça reste pour chaque enfant un moment terrible. Donc, je n'ai que 10 ans lorsque je la perds. La dernière née de ma famille n'a que 6 mois. Donc, nous apprenons très vite autour d'un père éploré à reconstituer notre vie au milieu de 6 enfants. Tout de suite, ça vous donne un sens de responsabilité. Et en même temps, j'ai ce souvenir incroyable à la fin de mon école primaire, où nous étions 2 de la classe, et le meilleur de nous tous, et moi-même, toute la différence s'est faite au moment de choisir. Moi, j'ai choisi d'aller poursuivre mes études secondaires chez le père jésuite. Lui, il est allé dans une école qui, dès la première paix de Minerval, a été mise à la porte parce qu'il ne pouvait pas payer. Et moi, le père jésuite m'a laissé continuer mes études. Lui, aujourd'hui, il est bouvier dans une contrée de Bandundu. Et moi, je connais le parcours que j'ai connu. Alors que nous deux, on était partis. Lui, il était intellectuellement beaucoup plus fort. Mais nous étions des enfants extrêmement démunis. Et toute la différence est faite là, au hasard des choses.
Angoulouma Bengi, que signifie votre nom?
Alors, simplement des noms complètement horribles,
si je dis comme ça.
Angoulou, c'est le nom que mon père m'a donné, qui est le nom de son jeune frère, qui signifie simplement les cochons au pluriel dans notre langue. On doit avoir eu un ancêtre qui élevait beaucoup de cochons et qui se fait appeler comme ça. Ensuite, Mabengi, toujours dans le dialecte bambala du Bandundu, ça signifie les ravins, tout un symbole, c'est-à-dire il faut franchir des ravins pour aller loin et il faudra franchir beaucoup de ravins pour venir me chercher moi-même.
En parlant de vous-même, vous vous définissez souvent comme celui qui est passé de la chasse aux rats à l'Élysée, le palais présidentiel français. On le verra un peu plus en détail, mais où le petit chasseur des rats que vous étiez a fait ses études primaires et secondaires?
École primaire, chez le Baptiste, tout près de la mission Vanga dans le Bandundu, et chez les catholiques, parce que dans la région où nous étions, c'était une région fondamentale pour les protestants, j'étais né des parents protestants, et moi, ils m'ont mis à l'école catholique parce que les catholiques avaient apparemment de bien meilleures écoles à l'époque. J'ai fait cela à la mission Bengi, Futubongo, poste Futubongo pour les gens qui cela peut dire quelque chose. D'abord, poste Mofulu, poste Futubongo, puis mission Bengi, toujours dans le Bandundu, et puis l'école secondaire au collège Saint-Ignace de Kinati, où j'ai fini chez le frère des écoles chrétiennes.
Votre licence en français histoire, vous l'a décroché à l'Institut pédagogique national IPN, l'actuelle université pédagogique nationale de Kinshasa, après les avoir commencé à l'ISP Kikwit dans le Bandundu. Après vos études, vous enseignez dans plusieurs écoles ici à Kinshasa, mais qu'est-ce qui vous attire dans le journalisme au point de travailler comme chef du desk art et culture au journal Salongo?
Effectivement, la curiosité d'abord. J'avais été toujours un enfant curieux, et dans le journalisme, ce qui m'avait attiré, le contact avec le monde extérieur, le monde politique. L'art et la culture ont été toujours des choses qui m'ont marqué.
Donc, disons que vous étiez très à l'aise dans le journalisme.
Très à l'aise dans le journalisme, c'est un métier que j'ai énormément aimé parce que ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, de rencontrer des gens, des artistes, des écrivains, mais aussi des musiciens, des plasticiens, des peintres, etc. L'art et la culture, je crois, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la vie, en fait. Et le le journalisme, quand vous le faites dans le cadre où je l'ai moi exercé, il vous met au diapason de tout cela. Et ça élève l'esprit, l'art, la culture, ce monde-là, ça a toujours été mon monde, le théâtre.
De syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Eddie Angoulou Mabengi, vous êtes ministre honoraire de l'Environnement et Tourisme, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France et compagnon de feu de président Laurent Désiré Kabila. En 1981, vous vous exilez en Suisse où vous resterez pendant 16 ans, vous serez très actif dans l'opposition où vous occuperez même les fonctions de ministre de l'Information et porte-parole d'un gouvernement parallèle. Pourquoi ne pas avoir lutté sur place au pays?
Oui, mais le combat a commencé ici. Nous étions dans les années de plomb, dans les années 80. Je suis au cycle d'orientation en 1965 lorsque M. Mobutu fait son coup d'État, il abroge la démocratie, a suivi la pendaison de Kimba et de ses amis en 66. Tous ces événements m'ont poussé plutôt beaucoup vers l'opposition. J'avais aussi un gamin de la brousse. Et dans l'une des vertus des enfants de la brousse, de ne jamais se soumettre, de ne jamais se coucher, de ne jamais accepter l'injustice et l'oppression. Alors, en 1981, je suis parti, donc, à la première occasion, je suis parti, je me suis réfugié en Suisse. Parce que, quelques années plus tôt, j'ai vécu des événements qui m'ont certainement déterminé, qui ont fait qu'en ce moment-là, et en cette année-là, je devais partir. Plusieurs mois auparavant, j'ai rencontré Mabika Kalanda, l'auteur de la remise en question, avec lequel j'ai eu des entretiens extrêmement profonds. Homme d'une intelligence supérieure, il avait rejoint Mobutu plus tard, il avait été même secrétaire d'État dans un de ses gouvernements, mais il avait gardé une grande lucidité dans le cours des événements de notre pays. Ensuite, un autre homme qui avait compté beaucoup pour moi, c'est Yves Valentin Moudimbe, écrivain bien connu, professeur de lettres à Lubumbashi, aujourd'hui philosophe américain puisqu'il a quitté notre pays. Il a été nommé membre du comité central du MPR sans demander son avis. Bien, dès la publication de son nom parmi les membres du comité central du MPR, il s'est exilé, il est parti. J'ai compris que la place pour des gens qui voulaient résister n'était pas ici au Congo, qu'il fallait partir. Ensuite, il y a eu l'arrestation d'Eric Tandundu, et puis la fuite de Mouloud Diatta avec toute la garde qui avait été commise à sa surveillance. Un événement d'ailleurs que je relate quelque part pour garder la mémoire. Donc tous ces événements m'ont déterminé à aller rejoindre ceux qui, de l'extérieur, avaient décidé de combattre la tyrannie et la dictature de notre pays.
Le 7 juin 1995, pendant votre exil, vous devenez docteur en sciences du langage de l'Université de Genève en Suisse. Votre thèse portait sur les interpellations parlementaires aéroises, structure et argumentation. Quelles étaient vos conclusions?
J'ai effectivement fait cette thèse sur les interpellations parlementaires aéroises, comme on disait à l'époque. J'avais pris comme exemple le cas de Molonga et Wabali, deux généraux de Mobutu qui étaient des très hauts responsables. L'un, PDG de RZAIR, et l'autre, ministre de PTT. Et ils avaient fait l'objet d'une très sévère interpellation au Parlement. J'ai conclu, effectivement, j'ai regardé, j'ai analysé l'orientation des interpellations, comment elles s'organisaient, comment elle s'est structurée. Effectivement, c'était du point de vue linguistique une étude très importante, mais je ne pourrais pas m'étendre sur toutes les conclusions compte tenu du fait que nous sommes dans le cadre d'une émission dont le temps est limité.
En parlant du Parlement, hein, vous êtes parmi les membres fondateurs du PPRD. L'affaire Caméré a défrayé la chronique et certains observateurs ont lu par là une absence de communication au sein de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon, il y a un peu de tout cela, mais essentiellement, il faut savoir que nous, les hommes politiques, nous sommes, je dirais, de mauvais garçons et de mauvaises filles qui n'avons pas voulu suivre le conseil de nos mamans. Du coup, nous nous retrouvons là où nous sommes, c'est-à-dire à Dallas, un monde impitoyable où toute faute se paye vite et cache. Et dès qu'on a payé sa faute, on sèche les larmes et on continue son chemin. Je crois qu'effectivement, faute a été commise par l'ancien secrétaire général du PPRD. Il devait tirer les conséquences de sa faute. Il les a tirées. Pour le PPRD, c'était un moment difficile à traverser, mais c'est un moment qu'il fallait passer parce que la vie, elle continue. Il ne faut pas oublier que Caméra était secrétaire général de notre parti. Donc, il devrait donner l'exemple en sortant. Et je sais que le chef de l'État et le PPRD ont tout fait pour que sa sortie soit une sortie digne. Il est sorti, la vérité a repris son droit et la vie, elle continue.
Les ouvrages, vous en avez publié beaucoup. Citons en 1989 Les enfants de Mobutu et de Papa Wemba, préfacé par Antoine Maurice. Brièvement, de quoi parlez-vous dans cet ouvrage?
Oui, avant de revenir brièvement sur cet ouvrage, je voudrais revenir sur ce que vous m'avez dit sur Caméré, parce qu'il y a tout de même dans son discours de sortie deux choses qu'il a dites et que je n'ai pas acceptées et que je rejette complètement. D'abord, j'étais surpris de l'entendre se référer à Mobutu, et plus grave, se référer aux gens qui ont été pendus par Mobutu, c'est-à-dire Kimba et ses amis. Dans la vie, il faut savoir choisir où on est du côté du bourreau, où on est du côté des victimes. Quand on est du PPRD, on ne peut pas, à mon point de vue, se référer à Mobutu, qui a été une dictature que nous avons combattu les armes à la main et que nous avons abrogé, que tout le peuple congolais ne peut plus prendre comme modèle. Donc ça, de ce point de vue, c'est un désaccord complet et que je voudrais souligner. La deuxième chose, je l'ai entendu dire qu'il voterait tantôt avec l'opposition, tantôt avec la majorité. Vous savez, en politique, le centre n'existe pas. Le centre a d'ailleurs deux grands problèmes. D'abord, il ressemble au chiffre zéro. Ensuite, la seule direction qu'il indique, c'est le tournant rond. Je pense qu'il faut savoir s'engager et s'engager résolument. En politique, il faut savoir choisir son camp.
Je crois que vous aurez l'occasion de laver tous les linges sales en famille. vous avez interdit. Alors nous parlions de votre ouvrage Les enfants de Mobutu et de Papa Wemba. Brièvement, de quoi parlez-vous dans cet ouvrage?
Alors, Les enfants de Mobutu et de Papa Wemba, j'ai commis ce livre en 1989. C'était une réflexion. Je comparais deux générations. Vous savez, notre pays a une génération qui, sur le plan politique, était nourri des idées de Patrice Lumumba. Et sur le plan culturel, était nourri par, si je peux dire, par Wendo. Ils ont dansé Maria Luisa. Et ces hommes étaient des hommes, je dirais, une génération de gens honnêtes qui ont résisté à la colonisation et nous ont conduits à l'indépendance. Ensuite, à cette génération, est arrivée une génération que j'appelais la madresse génération, c'est-à-dire une génération corrompue, qui était politiquement sans avenir. Mobutu ne leur laissait aucune chance. La Deuxième République s'en est servie et les a chaussifiés pour chanter et danser pour les guides fondateurs de la révolution la plus grande du monde, si je peux dire comme ça. Et sur le plan culturel, c'était un peu le vide, parce que Papa Wemba, qui les a pris culturellement en charge, leur proposait quoi? Soyez beaux, habillez-vous, donc ne vous souciez de rien. C'est dans Les enfants de Mobutu de Papa Wemba. C'est cela, cette réflexion que j'ai conduite en son temps.
En 1991, vous publiez Adieu Mobutu, génie de Gbadolité, préfacé par René Dumont, 10 000 exemplaires vendus. En 1994, aussi, Zaïre, le fédéralisme le plus émotif du monde. En 1985, par contre, là, vous rencontrez le feu président Laurent Désiré Kabila à Genève, en Suisse. Vous deviendrez des grands amis au point de vous faire quitter le parti Lumumbiste, le PALU, où vous étiez membre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, la vie, c'est essentiellement une question de choix. Si je peux commencer par là, je quitte le PALU d'Antoine Gizenga, effectivement, après un désaccord. La question qui s'est posée, le PALU devrait, comme le demandait Laurent Désiré Kabila, soutenir le combat qu'a mené l'AFDEL.
La lutte armée.
La lutte armée, la libération du Congo. Le PALU et Gizenga ont répondu non, j'étais en désaccord et je suis parti rejoindre Antoine Gizenga,
Laurent Désiré Kabila
à Goma. Il faut savoir que pour moi, essentiellement, Laurent Désiré Kabila, c'est un grand modèle dans beaucoup d'idées qui sont les miennes. N'oubliez pas que je pense, comme lui le pensait, que les frontières géographiques ne valent rien devant les frontières idéologiques. Que la vraie fraternité, c'est la fraternité des idées. Alors, donc, je l'ai quitté dans ces conditions-là. Ensuite, ça a été une rencontre, effectivement, qui a ensuite bouleversé ma vie. Vous avez évoqué les autres publications. Adieu Mobutu, ça a été une analyse d'une société. Et effectivement, à ce moment-là, il fallait pouvoir dire adieu à Mobutu, le lui dire de la manière plus forte. Pour moi, ce régime était voué à l'échec, il était condamné, il avait fait beaucoup de mal à notre pays.
Radio Kati, grand témoin.
Edi Angoulou Mavingi, ministre honoraire de l'Environnement et Tourisme, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France et compagnon de feu le président Laurent Désiré Kabila, le 11 juin 1997, vous devenez ministre de l'Environnement et Tourisme. En 2000, secrétaire permanent adjoint du directoire du comité de pouvoir populaire CPP. Et le 16 janvier 2001, vous arrivez au Palais de la Nation 30 minutes après l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'héritage de M. Laurent Désiré Kabila?
De Mme Laurent Désiré Kabila, il reste une grande idée que tous les Congolais connaissent, et je ne fais que répéter, ne jamais trahir le Congo et ne jamais se rendre. Et je pense que ça, c'est une idée très forte. Il reste l'idée du Congo uni. Et je voudrais profiter de cette occasion pour faire vraiment un grand hommage, je dis honneur aux Congolais qui habitent la partie est de notre pays. C'est grâce à eux que notre pays a montré au monde entier qu'on ne faut pas transiger avec notre unité. Malgré l'occupation, malgré les guerres, les populations congolaises de l'Est ont été exemplaires d'un courage extraordinaire. Quand je pense à Laurent Désiré Kabila, à son assassinat, je me dis que mieux vaut tomber physiquement et garder ses idées debout, parce que vous savez, on peut mourir d'une crise cardiaque, c'est une mort tout à fait bête. Mieux vaut peut-être mourir à cause de ses idées. Laurent Désiré Kabila, de ce point de vue, reste immortel, c'est un grand homme. Il reste un modèle, un exemple. Comme Lumumba, j'ai toujours dit que le lumumbisme, c'est une façon d'aimer le Congo, de l'aimer, éperdument jusqu'à ce moment sans suivre. sûr. Il faut pas oublier que Laurent Désiré Kabila n'a pas 18 ans lorsqu'il décide de s'opposer à la sécession katangaise et qu'il quitte évidemment les Katanga pour aller rejoindre Lumumba et le combat de Lumumbi. C'est cela que je retiens de lui. Je retiens de lui, bien sûr, aussi cette histoire incroyable que les Congolais doivent se prendre en charge. Nous avons essayé à l'époque. Nous avons lancé les francs congolais sans en prendre une dette de l'extérieur. Nous avons mis le Congo sur les rails, sa particularité, et que nous avons voulu développer notre pays avec de l'argent, des ressources financières, des ressources minières trouvées ici au Congo. Donc l'expérience que Laurent Désiré Kabila avait faite avec notre gouvernement a démontré qu'un grand pays comme le Congo, ce pays qui est génétiquement programmé pour devenir une superpuissance, que ce pays a le moyen de se développer par lui-même, sans s'endetter, sans mettre nos enfants dans la situation de rembourser les dettes à l'infini, que c'était possible. Nous l'avons démontré, donc c'est faisable.
Du 29 mai 2001 au 14 novembre 2005, vous travaillez comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France. Le 31 mars 2006, le président français Jacques Chirac vous fait grand officier de l'ordre français de mérite. Qu'avez-vous fait pour cela?
Vous l'avez dit, donc mon parcours, c'est celui de la chasse des rats à l'Élysée. Vous l'avez dit vous-même. Et si je devais réviser mes mémoires, c'est pas mal, là, je vous prendrais ce joli. Je crois que vous souviendrez qu'en 2000-2001, nos relations connaissaient une situation extrêmement difficile avec le monde occidental en général et avec la France en particulier. Et dans ce contexte que le président Joseph Kabila m'a demandé d'aller à Paris pour améliorer la situation de nos relations. Cela a été fait de la manière en suivant scrupuleusement toutes les instructions que le président Joseph Kabila m'avait données. Donc, j'ai fait mon travail dans la dignité comme cela devait. Et notre pays a eu avec la France d'excellentes relations. Lorsque des troupes étrangères ont occupé notre pays, la France était le grand pays qui nous a soutenus de bout en bout, très attaché à l'unité de notre pays. Nous l'avons fait. C'est la France qui est venue avec Artemis. Donc, la France a été le pays qui a initié toutes les grandes résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies pour nous soutenir. Donc, à son temps et même maintenant, je continue à exprimer toute ma gratitude à ce pays, ce grand pays européen qui nous a énormément aidés. Cette décoration, effectivement, ça a été un très grand honneur fait à mon pays, à mon chef, à la diplomatie de mon pays et à moi-même et à ma famille. Je crois que c'est la reconnaissance d'un excellent travail.
Notamment vers la fin de cette émission, nous allons prendre le témoignage de quelqu'un qui vous connaît et que nous avons joint pour vous.
Moi, c'est Monsieur Jean-Marie Ntantomey. Par rapport à l'ambassadeur Eddy Angoulou, je suis son ami et frère de même terroir dans le district du Kwilu. Son jeune frère en études à Patelieu Séguécuit, où quand il était en troisième année graduat, j'étais en première année graduat, et je l'ai rejoint à l'IPN, Institut Pédagogique National, où il était déjà en deuxième licence, et moi j'étais en deuxième année graduat, je l'ai rejoint, et là j'ai été son maquisard, c'est-à-dire un étudiant qui passait la nuit avec lui dans la même chambre, et plus que cela, sur le même lit, tous deux fils de paysans, nous avons partagé le même lit avec des ressorts sans aucune mousse sur des cartons. Et par la suite, quand il travaillait, il était enseignant et journaliste au journal Salongo. Quand il est parti en Suisse, je suis resté gérer toutes ses relations. Et depuis lors, nous gardons les relations avec Eddy Angoulou jusqu'à ce jour où il demeure mon ami le plus intime, surtout dans le cadre politique. Son défaut, c'est le manque de réalisme politique. Je pense que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui que le régime laissé par Mouzé est un peu gangréné par certains mobutistes et dit qu'il est un anti-mobutiste. Je pense que par manque de réalisme et à cause de cela, aujourd'hui, depuis qu'il n'est plus ambassadeur en fonction, il n'a pas d'autre fonction parce qu'il manque un certain réalisme politique.
Eddy Angoulou, j'ai lu beaucoup de plaisir sur votre visage, la surprise, le sourire, votre réaction.
Oui, la surprise, effectivement. Vous savez, les hommes politiques, ils s'embrassent en se tapant sur le dos. Un peu comme les Corses. Vous savez pourquoi?
Non,
simplement pour vérifier si l'autre ne cache pas un pistolet. Alors, Ntantomey, effectivement, c'est quelqu'un que j'embrasse sans me poser de questions. C'est vraiment une grosse surprise de l'entendre. C'est vraiment un ami. C'est vraiment un ami. Oui, il n'y a pas de mots. C'est un frère pour moi. Vraiment, vous m'avez surpris alors.
Vous perdez les mots, hein.
Ça m'a surpris.
Alors, pour clôturer cette émission, un bref message à tous les Congolais qui vous suivent.
À tous les Congolais, j'aimerais simplement dire deux choses. Première chose, il faut le respect de la mémoire. C'est-à-dire, nous sommes un peuple, un grand peuple, nous avons une histoire, il faut respecter notre histoire. Des hommes et des femmes se sont battus pour l'unité de ce pays. Ça date pas d'aujourd'hui. Je suis ces derniers temps en train de me passionner pour un petit bout de femme, Madame Kage, qui en 1931 avait pris la tête de la révolte de Bapende en guise de résistance à l'oppression coloniale. Pour cette femme, je l'ai découverte. Je me suis passionné ces derniers temps pour un certain Abbé Louya, que personne ne connaît, qui a été aumônier de la Bako, qui, alors qu'il est prêtre dans un mouvement de résistance, a offert à Kasavubu des déguisements et des moyens de s'évader, alors qu'il était harcelé par la police coloniale belge.
Le deuxième message.
Ça tourne toujours pour moi. J'ai une grande passion, c'est l'histoire du Congo. ça tourne à un seul mot, l'unité de notre pays, quoi qu'il arrive. La condition pour que ici en Afrique se construise une superpuissance, la condition c'est que notre pays soit uni de l'est à l'ouest, du nord au sud, et que nous puissions bien sûr tous soutenir le président Joseph Kabila dans ces cinq chantiers. Et l'un des principaux chantiers restera même le culturel, le mental, c'est-à-dire que l'homme congolais puisse se sentir concerné par ce qui se fait, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans son avis. Et je crois que les Congolais doivent, encore une fois, suivre un mot de Mouzet, doivent se prendre en charge eux-mêmes maintenant et tout de suite.
Eddy Angoulou, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci beaucoup Alain, je vous remercie de m'avoir invité.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je ressaisis Eddy Angoulou Mabengi, ministre honoraire de l'Environnement et Tourisme, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France et compagnon de feu du président Laurent Désiré Kabila, à la technique Willem Lungamba, à la présentation Alain Hiroung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci de nous suivre à Nzaï, à Mwadamoutèbe, dans la province du Katanga et partout dans le monde. Thank you.